Bonjour à tous, je vous invite à la prière. Merci Père pour ce témoignage touchant. Merci parce que nous pouvons voir que tu conduis toutes choses, que nous ne maîtrisons pas tout, mais c'est toi qui fais arriver chaque chose en son temps, chaque chose que tu as prévue. Merci parce que ta fidélité d'hier nous assure de ta fidélité d'aujourd'hui et de demain. Nous te prions pour que ta parole, ton esprit, soit encore à l'œuvre dans notre vie, dans cette église, partout. Nous te remettons chacun de nous, nous te remettons chaque enfant, pour que ce culte, que nous puissions continuer d'être à ton écoute et que tu continues de nous bénir, mais aussi de nous transformer à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, si je vous demande, êtes-vous au service de Dieu? Êtes-vous au service de Dieu? Comment comprenez-vous cette question? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous parle de servir Dieu? Le Moyen-Âge était une époque où les populations en Occident étaient très superstitieuses et très religieuses. Et il y avait clairement deux catégories de personnes. D'une part, l'état ecclésiastique, c'est-à-dire les moines, les prêtres et les religieuses. Et avoir l'une de ces vocations était l'unique manière de servir Dieu. Et d'autre part, il y avait les laïcs, les gens d'autres professions qui, eux, sont du monde et donc ne servent pas Dieu. Et dans cette conception moyenâgeuse, seules les personnes de l'état ecclésiastique sont au service de Dieu. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais il y a encore, je trouve, beaucoup de traces de cet héritage du passé. Par exemple, quand on parle de servir Dieu, on a souvent en tête des tâches liées à l'Église ou au témoignage de l'Évangile. Par exemple, faire le ménage à l'église, c'est servir Dieu, parce que c'est dans une église. S'occuper des enfants pendant le culte, c'est servir Dieu, puisque c'est lié à l'église. Parler de Jésus aux collègues de travail, c'est servir Dieu, puisque c'est lié au témoignage de l'Évangile. En revanche, savourer un pique-nique en famille dans les bois au printemps, ce n'est pas servir Dieu, à moins que l'on parle de Dieu. Dans cette conception du service, servir Dieu, c'est toujours lié à l'Église ou à l'évangélisation. C'est lié au travail du pasteur. Avec cette vision du monde, le clergé est considéré comme le serviteur de Dieu par excellence. Et les laïcs sont là pour être comme une extension du travail du pasteur. Ainsi, lorsque l'on demande aux chrétiens de servir Dieu là où ils sont, dans leur lieu de travail, dans leur famille, dans leur voisinage, on a tendance à comprendre que servir Dieu signifie parler de Jésus, être honnête dans son travail, ne pas entrer dans des médisances, etc. Parce qu'on est un témoignage de vie, lié à l'évangélisation toujours. Alors c'est tout à fait exact, mais c'est limité. Parce que selon cette vision du service, eh bien la plupart des gens n'ont pas l'impression de servir Dieu, au travail ou ailleurs. Imaginons, si un cadre ou un employé n'a pas réussi à placer Jésus dans une conversation, et s'il n'a pas eu besoin de s'abstenir de critiquer ses collègues, eh bien, quand il rentre chez lui le soir, comment aura-t-il servi Dieu dans la journée? Cette vision du service peut aussi susciter de la frustration. Le dimanche, on nous invite à servir Dieu en toute occasion, mais dans le quotidien, on n'a pas l'impression de faire grand-chose pour Dieu. On renforce ainsi l'idée que servir Dieu, c'est vraiment à l'Église, et c'est surtout le pasteur. Alors que dit la Bible à ce sujet? Depuis quelque temps, nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens, et ce matin, nous continuons notre série de prédications sur cette lettre, et nous arrivons au chapitre 4, verset 7. Et aujourd'hui, c'est particulier, car je m'arrête sur un seul verset, chapitre 4, verset 7. Alors, pour rappeler en deux mots le contexte, cette lettre rappelle aux Éphésiens que Dieu a tout réconcilié grâce à Jésus et en Jésus, c'est-à-dire en union avec lui. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus. Nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, parce que Dieu éclaire notre propre personne, il éclaire ce qu'il y a de mauvais, et nous pouvons tout remettre à ses pieds pour qu'il nous transforme, nous fasse grâce, nous pardonne. Et il nous réconcilie aussi avec nos frères et sœurs dans la foi, dans le sens où il n'y a plus de barrière, par exemple entre juifs et non-juifs, dont il parle de ça dans sa lettre, mais il n'y a plus de barrière parce que nous sommes réunis dans la même famille. À partir du chapitre 4, il nous invite donc à vivre cette réconciliation. Et cela demande des efforts. Il nous invite à nous supporter les uns les autres, à faire preuve de patience, de bonté, de douceur et d'amour. L'unité est fragile, car nous sommes humains, nous sommes faillibles, nous sommes faibles. Et donc nous devons toujours chercher auprès de Dieu l'aide pour construire, pas construire, mais pour maintenir la paix qu'il a déjà construite. Ce sont les versets 3 à 6, c'est un rappel de ce que nous avons vu il y a deux semaines. Il dit, l'apôtre Paul, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Paul est en train de dire qu'il n'y a qu'une famille de Dieu que Jésus réunit. Puis il ajoute au verset 7, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Ce verset fait la transition avec le reste du chapitre, où il va enseigner que chacun a un rôle à jouer dans ce monde, dans l'Église et dans ce monde. Il y a une seule famille de Dieu, cependant, chacun, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Une famille, mais une multitude de membres avec des vocations différentes. Paul dit bien à chacun de nous. Il parle de tous les enfants de Dieu dont il vient de parler juste avant. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. La grâce dont il est question, ce n'est pas seulement la grâce qui sauve. Le mot « grâce » ici, comme dans tout le reste du chapitre 3, désigne un cadeau de Dieu, un don de Dieu en vue d'un appel. Cela est confirmé par le fait qu'il parle ensuite du rôle de chacun dans le service pour Dieu. À chacun des enfants de Dieu, il confie une grâce qui est une vocation, un appel à servir d'une manière particulière. Nous sommes tous appelés au service de Dieu partout où nous sommes. La question est donc maintenant la suivante. En quoi consiste ce service? Ce service consiste à servir le monde de manière large. Parce qu'en servant le monde, nous sommes des outils dans les mains de Dieu. Dans la prière que Jésus a apprise à ses disciples, le Notre Père, voici ce que nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je ne mentionne que le début. Cette prière commence par la volonté de Dieu, qu'elle soit accomplie sur la terre comme au ciel. Sur la terre, c'est partout sur la terre, dans l'Église et hors de l'Église, chez le croyant et chez le non-croyant, sur le monde végétal et sur le monde animal, partout sur la terre, que sa volonté soit faite. Et nous avons ensuite une demande que nous faisons à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voici comment Martin Luther commente cette prière dans son catéchisme. Il dit « Nos pensées ne doivent pas seulement se reporter à la farine dont on pétrit le pain, ou bien au four du boulanger, mais à tout le pays, aux champs qui produisent et nous fournissent notre nourriture, car si Dieu ne bénissait pas les productions de la terre et ne nous les conservait pas, nous n'aurions pas de quoi nous rassasier un seul jour. » Luther nous invite à considérer tout ce que Dieu met en œuvre pour prendre soin de nous, tout ce que Dieu met en œuvre. Il parle des champs de blé qu'il fait pousser, mais aussi, il en parle au début, du boulanger. Dieu nous donne notre pain de ce jour à travers la personne qui pétrit le pain, à travers celui qui produit la farine, à travers celui qui plante le blé et le cultive, à travers celui qui fabrique ou répare les tracteurs, à travers ceux qui ont construit le four, ceux qui travaillent dans les centrales électriques qui alimentent le four, ceux qui font la maintenance informatique dans ces centrales, ceux qui gèrent les comptes et les employés, etc. Le pain que nous demandons à Dieu pourrait directement nous tomber du ciel, mais il utilise le boulanger, le fabricant de four, les employés de la centrale, les informaticiens et tout un tas d'autres métiers. Cela veut-il dire que tout le monde sert Dieu ? D'une certaine manière, oui, tout le monde est au service de Dieu. Mais revenons à notre verset de la lettre aux Éphésiens. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. L'enfant de Dieu a reçu une grâce, un don lié à un appel. Un appel, ce n'est pas un choix personnel. C'est une mission que Dieu nous confie. Une mission non pas pour se servir soi-même, mais une mission pour servir mon prochain. En tant que chrétien, nos activités, notre travail ou nos engagements n'ont pas pour but de nous servir nous-mêmes, mais de contribuer au bien de ce monde. Alors que certains voient le travail comme seulement une façon de gagner de l'argent, voire de s'épanouir, d'accéder à un pouvoir ou à une reconnaissance de la société, le chrétien voit son travail ou son activité comme un appel. Chaque activité, considérée comme une contribution au bien de la société, est un service pour Dieu. Et même les arts et l'embellissement contribuent au bien de la société. Nous pouvons aussi parler de la famille, passer du temps avec sa famille, avec ses enfants, les éduquer, s'amuser avec eux, les amener pique-niquer dans les bois au printemps. Lorsque c'est vécu comme un appel que l'on réalise avec soin et amour, cela revient à servir Dieu. Et rappelons-nous que Dieu s'est reposé de ses œuvres le septième jour. Et se reposer dans cette optique de recevoir ce que Dieu nous confie et nous donne par grâce, c'est aussi une manière de l'adorer. Dieu n'attend-il pas de nous que nous soyons de bons parents, de bons grands-parents, oncles ou tantes, cousins ou cousines? Tout ce que nous faisons, faisons-le avec consécration, avec l'objectif de servir le monde, d'adorer Dieu. Car Dieu nous utilise pour contribuer au bien de la société. Et c'est aussi cela notre vocation. C'est aussi cela aimer notre prochain. Dans la société où vivait Martin Luther, le clergé était mis sur un piédestal et seul l'engagement dans l'Église était valorisé. Car on pensait que le salut venait des œuvres. Mais Luther a découvert dans la Bible que le salut venait non pas de nos œuvres, mais de l'œuvre de Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, pourquoi le travail dans un monastère serait-il supérieur à un travail dans un supermarché? Du moment où nous travaillons pour servir la société où Dieu nous place, nous sommes au service de Dieu. qu'en est-il de toutes les fois où nous échouons, toutes les fois où nous avons un sentiment de travail inachevé ou inaccompli? En tant que pasteur, et surtout en tant que chrétien tout court, je suis appelé à travailler la paix et la communion dans la communauté. Et si je n'y arrivais pas totalement? En tant qu'habitant de Guillonville, je suis appelé à contribuer au bien de cette commune. Mais si je rencontrais des difficultés quelconques pour cela, comment le vivre? Mon service a-t-il pour autant échoué? En tant que mari et père, je suis appelé à être attentif à ma femme et à mes enfants. Et si parfois je manque de patience, est-ce une fatalité? Dieu nous appelle à compter sur lui, à puiser nos forces en lui, à rechercher la sagesse qui vient de lui. Mais il faut reconnaître que nous sommes encore sous l'emprise de notre nature humaine. Et il nous arrive de tomber dans des pièges, d'être faillibles et même d'échouer. Ce qui est génial avec Jésus, c'est que la grâce est encore là. Et en plus de la grâce, il y a l'espérance. Je conclus justement avec une petite histoire sur cette grâce et sur cette espérance. Alors ce n'est pas mon histoire, c'est un résumé d'une nouvelle de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Il faut savoir que Tolkien a écrit cette nouvelle alors qu'il travaillait sur les intrigues du Seigneur des Anneaux. Cet écrivain était un homme très pointilleux, assez perfectionniste. Avant même d'écrire Le Seigneur des Anneaux, il a passé des décennies à imaginer le monde dans lequel cela se passerait. Il a même inventé des langues, les langues qui seraient parlées dans ce monde. Il a tout imaginé dans les moindres détails. La question qu'il se posait donc sans cesse était la suivante: vais-je un jour réussir à terminer mon histoire avant de mourir? Lorsqu'il travaillait, il avait l'habitude d'observer un arbre en face de chez lui, un beau peuplier. Mais un jour, sa voisine fit couper cet arbre dont elle était propriétaire. Ce jour-là, quand il vit que l'arbre n'était plus là, il prit conscience que sa vie pouvait lui être retirée, reprise, à n'importe quel moment, comme cet arbre, de manière soudaine et inattendue. Cela lui donna l'inspiration pour écrire une nouvelle qui s'intitule « La feuille de Nigel ». Monsieur Nigel est un peintre obsédé par un tableau qu'il essaye de peindre. Il a d'abord à l'esprit une feuille, puis tout un arbre. Voici un extrait du récit. Il avait commencé par une feuille prise dans le vent, mais il devint un arbre. Et l'arbre crut dans le sens de la croissance. Puis, tout autour de l'arbre et derrière, à travers les trouées des feuilles et des branches, commença à se développer un paysage. Il y eut des aperçus d'une forêt gagnant du terrain et de montagnes couronnées de neige. Donc, à force d'élargir son tableau ambitieux, il utilise une toile si grande qu'il a besoin d'une échelle pour y travailler. Le problème, c'est qu'un jour, il sait qu'il doit effectuer un grand voyage et il n'arrête pas de repousser la date de ce voyage pour finir ce tableau. Dans l'histoire, ce voyage symbolise la mort. Il sait qu'un jour, il devra partir et laisser son tableau. De plus, plusieurs éléments viennent ralentir la réalisation de son œuvre. Tout d'abord, c'est quelqu'un de très minutieux, qui peut passer un temps fou à peindre juste une feuille, car il a le souci du moindre détail. Les lumières, les ombres, les gouttes de rosée, etc. Ensuite, M. Nigel a des voisins qui le sollicitent sans cesse, en particulier Parish, c'est le nom de son voisin, un voisin qui lui demande souvent des services. Un jour, alors que son tableau n'est pas encore achevé, le conducteur vient le chercher et il doit partir pour effectuer son voyage. Pendant ce voyage, l'œuvre de Nigel tomba dans l'oubli. De son tableau, il ne reste plus qu'un coin déchiré représentant une feuille. Quant à Nigel, en plein voyage, il entend deux voix lui parler. Justice, sur un ton sévère, lui dit qu'il aurait pu perdre moins de temps et travailler plus, plus efficacement. Mais Miséricorde répond qu'il a donné son temps pour les autres. Au bout du voyage, quelque chose attire son attention. Voici un autre extrait de sa nouvelle. Devant lui se dressait l'arbre, son arbre, achevé. Si l'on pouvait dire ça d'un arbre vivant, dont les feuilles s'ouvraient, dont les branches croissantes se courbaient dans le vent, que Nigel avait si souvent senti ou deviné, et qu'il avait si souvent échoué à rendre. Contemplant l'arbre, il leva les bras et les ouvrit tout grand. « C'est un don, » dit-il. Cette histoire qui vient d'être brièvement résumée a plusieurs portées. Mais ce que je veux relever, c'est que notre œuvre ici-bas, celle que Dieu nous permet de faire, celle qu'il nous appelle à faire, notre œuvre ici-bas est un peu comme le tableau inachevé et imparfait de Nigel. Tout ce que nous accomplissons sur cette terre peut sembler éphémère, imparfait et périssable. Mais Dieu existe. Dieu existe et il nous fait grâce et il nous promet une espérance. Avec Dieu, nous avons la notion d'éternité. Tout effort pour le bien, même le plus modeste, accompli en réponse à l'appel de Dieu, a une valeur éternelle. L'apôtre Paul dit ceci en 1 Corinthiens 15, « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat devant le Seigneur. » Il parle en particulier du travail de répandre l'Évangile, mais c'est valable pour tout travail. En tant que pasteur, en tant que chrétien, je suis appelé à veiller à la paix, la communion, l'unité. Mais comme je suis faillible et encore pécheur, mon travail sera imparfait, et parfois avec des échecs. Mais sur la nouvelle terre, la famille de Dieu sera vraiment réunie dans la communion et dans l'unité. L'arbre que j'aurais essayé de peindre en réponse à l'appel de Dieu deviendra un jour réalité, par grâce et non pas par mes œuvres. En tant que père, je suis appelé à apprendre ce qui est juste à mes enfants. Cependant, je suis parfois moi-même injuste et je suis un enseignant imparfait. Mais sur la nouvelle terre, la justice règnera vraiment dans nos cœurs. En tant que citoyen, je suis appelé à contribuer à la justice sociale, au bien de la société. Mais comme ma nature humaine lutte encore avec l'égoïsme, mon travail sera imparfait. Cependant, sur la nouvelle terre, la société sera vraiment juste. Pendant nos cultes, c'est mon dernier exemple, pendant nos cultes, nous chantons bien, mais ce n'est pas toujours parfait. Dans le royaume de Dieu, nous formerons une magnifique chorale pour chanter la gloire de Dieu. Ce monde idéal que nous visons par notre activité modeste et imparfaite, ici-bas, deviendra un jour réalité. Non pas grâce à nos efforts, mais par la grâce de Dieu. C'est un don. Continuons donc de servir Dieu, car ce n'est pas en vain. Chaque contribution a une valeur et une portée éternelle. L'histoire de l'humanité commence à la Genèse, dans un jardin. Et elle se termine dans l'Apocalypse, dans une ville. C'est bien que Dieu utilise le travail accompli par la main de l'homme pour le monde d'après. Un travail qu'il nous confie aujourd'hui et qu'il mènera à son aboutissement parfait par sa grâce. Ainsi donc, dit Paul, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à un moment de silence et ensuite,